Aujourd'hui, on va étudier un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 7. Je fais simplement suite à une série qu'on avait commencée l'année dernière avant le Covid. Et on en arrive au jour d'aujourd'hui dans la deuxième partie en fait, du livre de Corinthiens qui commence au chapitre 7. C'est une section qui s'ouvre sur des questions que les Corinthiens se posent concernant la foi ou des sujets particuliers. Et ce matin, on va en étudier un en particulier qui va concerner le mariage. Mais j'aimerais, pour commencer, vous poser une question ou faire une remarque. Est-ce que vous êtes pour une sexualité libre ? Qui est pour une sexualité libre ? Ok, je le suis, mais je vais vous expliquer. Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on s'attache à ce passage de 1 Corinthiens 7. Et vraiment nous encourager à vivre cette sexualité vers laquelle Dieu nous encourage à aller. Et je vous invite simplement à prendre ce passage que nous lirons dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maîtresse de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari, si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne divorce pas de sa femme. Fin de la lecture. Vaste sujet. Des fois, on entend dire que la sexualité est un sujet tabou dans l'Église. Bah, vu qu'on suit un livre, on est obligé d'en parler. Et je vous propose d'en parler ce matin. Selon cette pensée, pour vivre une sexualité libre. Et je vais vous l'expliquer. La première chose que j'aimerais voir avec vous dans ce passage, c'est que la sexualité est un don donné par Dieu à l'humanité. Et la deuxième chose aussi que j'aimerais partager ce matin, c'est que le mariage est le cadre donné par Dieu pour vivre la sexualité. Et commençons ensemble. La sexualité est un don donné par Dieu à l'humanité. Au verset 1, Paul répond déjà à une problématique, ou en tout cas un sujet, ce sujet présenté au verset 1, nous lisons « Passons à ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. » Ici, le verbe « toucher », ce n'est pas simplement avoir un contact, vous avez bien compris. C'est un euphémisme pour parler de rapport sexuel. Donc il est bon, la question ici c'est des Corinthiens, est-ce qu'il est bon pour un homme ou pour une femme de ne pas avoir de rapport sexuel ? Et Paul va répondre. Pourquoi il va répondre à ce sujet important ? Parce que certains Corinthiens à cette époque, qui sont influencés par ce qu'on appelle un ascétisme démesuré, l'ascétisme c'est une sorte de pensée qui pousse finalement à vivre une vie très disciplinée, avec même des privations à l'extrême pour finalement grandir dans une plus grande perfection spirituelle. Mais Paul les reprend ici. Parce que ces personnes vont même jusqu'à dire qu'il fallait s'abstenir de relations sexuelles au sein même du mariage et aller jusqu'à encourager certaines personnes qui n'arrivaient pas à être ensemble sans avoir des rapports sexuels, à se séparer et à divorcer. C'est pour ça qu'on a aussi la question du divorce qui vient après et qui pourra être abordée une prochaine fois dans une prochaine prédication. Paul sous-entend plusieurs choses ici. Qu'il n'est pas d'accord avec la façon de raisonner donc de ces Corinthiens, sur notamment la façon de comprendre la question de l'abstinence et la question des rapports sexuels. Et Paul sous-entend déjà dans ce premier verset, il n'est pas en train de dire « Oh, l'abstinence, c'est pas bien », mais il dit « Oui, Mais il continue. Oui, c'est bien, mais, et on lit à la suite, verset 2, « Toutefois, à cause des occasions d'inconduite que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour un temps, hein, pour vaquer à la prière. » L'abstinence, Paul dit, l'abstinence, c'est bien. Et Paul dit aussi, les rapports sexuels, c'est bon. Paul est en train de nous tracer un chemin ici. Il trace un chemin qui est clairement binaire. L'abstinence ou les rapports sexuels. Et en réalité, si on réalise notre vie au quotidien, on a affaire tout le temps à cette question, entre guillemets, par rapport à nos situations de vie. La vie témoigne largement que certaines personnes sont en couple, sont mariées, ou certaines personnes sont célibataires. Et Paul fait quelque chose d'amusant ici. Il donne à la fois du pour à l'abstinence et du pour les rapports sexuels. Lorsque Paul parle ici de sexualité, il nous replace surtout devant la gestion de notre sexualité, de notre vie sexuelle. Alors je vous pose la question ce matin, quelle image avons-nous d'une sexualité libre ou comment la vivons-nous? Paul rappelle en filigrane quelques éléments bibliques et importants que nous devons reconnaître dans notre gestion pour notre vie sexuelle. Le premier appel que j'aimerais souligner avec vous, c'est que Paul rappelle que les rapports sexuels sont très bons au sein du mariage. Et Paul va conseiller d'ailleurs le mariage comme une protection en vue des situations qui existaient dans la ville de Corinthe. Il encourage cette relation maritale à se marier parce que la ville de Corinthe vit une débauche à outrance, et donc pour garantir cette sexualité et une vie sainte dans la sexualité, Paul encourage le mariage. Mais il ne l'encourage pas non plus dans un sens seulement pour assouvir des passions sexuelles. Et si on empiète sur le verset 7, Paul est en train d'appeler à un juste discernement. Et un discernement qui n'a pas forcément à faire avec la pratique ou non du rapport sexuel, mais avant tout, selon une question de don que Dieu a fait. Soit le don de célibat, soit le don pour aller vivre dans le mariage. Et Paul fait cette remarque que celui qui a le don de célibat ne devrait pas se marier. Et d'un autre sens, Paul entend aussi que celui qui n'a pas le don de célibat, mais qui persiste, alors volontairement, et même s'il a la possibilité de se marier, de ne pas le faire, eh bien c'est une erreur. Et d'ailleurs, il encourt, dans la pensée de Paul, à plusieurs risques, à de grands risques. Il s'expose à de grands risques. Paul donne des principes assez forts ici, que je souligne. Il met en avant donc les rapports sexuels qui font partie des obligations du mariage. Et c'est vraiment fort ici. Et que l'égalité et le respect mutuel font partie des rapports entre le mari et sa femme. Et l'obligation est la même pour les deux, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Il est dit que de même le corps de la femme est sous l'autorité de son mari ou appartient à son mari. Le verbe ici, c'est disposer, c'est-à-dire que le corps de la femme est disposé pour son mari et à l'inverse, le corps du mari est disposé pour celui de sa femme. Et Paul met ici finalement la soumission mutuelle, l'amour mutuel. Et il y a des implications très fortes ici que la Bible nous rappelle, c'est que lorsque nous nous engageons dans un mariage, ce n'est pas pour assouvir des passions ou pour des raisons égoïstes, uniquement pour se satisfaire soi-même. La vision du mariage renvoie au fait que nous voulons vivre un rapport avec l'autre dans l'amour, dans l'intérêt de l'autre et pour son plaisir. Et c'est un poison mortel, notons-le ce matin, que lorsqu'un couple fonctionne comme sous une forme de pression, en tout cas le rapport sexuel devient une forme de pression ou une forme de menace ou une forme de récompense. Parce que Paul dira finalement que ce genre d'attitude face à notre conjoint devient ici comme une façon de voler son conjoint. Les termes ici, lorsqu'il est, il est dit de ne pas, je ne sais plus comment il est dit, pardon. Qu'il rende à sa femme, c'est ça, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit. Ici, il est question de, quand on ne le fait pas, d'être en fait en fraude. On fraude l'autre, on le vole. Donc ici, on le rappelle, voilà que cette relation se vit dans l'échange mutuel, dans l'amour mutuel, dans la volonté de bénir l'autre, de lui vouloir du bien, et pas de tomber dans une forme de pression. Ça pourrit un couple, hein. Ça pourrit le couple. Paul est aussi bien conscient de notre faiblesse, vous l'avez souligné, hein, la faiblesse de notre nature, qui par manque de maîtrise ou par une trop longue absence de rapport au sein du couple pourrait entraîner, il le dit, certaines dérives et finalement nous entraîner à ce que la Bible appelle de l'immoralité sexuelle. Et donc par manque de maîtrise et aussi parce que Satan connaît les faiblesses que nous avons tous dans ce domaine, eh bien, il est bon de se rappeler ensemble que lorsqu'on est marié, les relations sexuelles en font partie. Et Dieu l'a voulu dans le cadre du mariage, au sein du mariage. Il n'a pas souhaité l'abstinence au sein d'un couple marié. Deuxième rappel aussi, l'autre côté du balancier, c'est que Paul rappelle aussi que l'abstinence est bon. Il est bon dans quel cadre ? La Bible, l'abstinence est bonne, pardon. Et la Bible rappelle clairement ce sujet. Pour celui ou celle qui n'est pas marié, la volonté de Dieu concernant la sexualité pour un homme ou pour une femme est bien celle de la pureté sexuelle jusqu'au mariage. Et c'est encore d'actualité. Et ce n'est pas simplement une question féminine ou une question masculine. Paul nous renvoie donc à ce qui est bon dans le célibat et dans l'abstinence sexuelle, mais nous renvoie aussi aux avantages et aux responsabilités au sein d'un couple marié. Paul ne va pas faire du mariage dans ses propos la norme spirituelle pour tous les croyants, puisque tous les croyants ne sont pas appelés à se marier, mais rappelle que le mariage est la norme instituée par Dieu pour les relations sexuelles entre un homme et une femme. Et c'est une grande valeur aux yeux de Dieu depuis la création, puisque c'est dans ce cadre-là que Dieu a permis que l'humanité se multiplie. Et dans un autre sens, Paul aussi souligne, par exemple au verset 7, « Je voudrais que tous soient comme moi, c'est-à-dire célibataires. » D'un autre côté, Paul valorise aussi le célibat. Et ici, il ne va pas dire dans sa pensée, il ne souhaite pas que tous les croyants abandonnent l'idée du mariage. Mais dans les circonstances dans lesquelles Paul écrit cette lettre, eh bien, les circonstances historiques sont très mauvaises. Il y a des milliers de chrétiens dans l'Empire romain qui sont arrêtés, battus et mis à mort pour l'Évangile. Donc, dans un certain sens, Paul conseille davantage de rester célibataire si on n'est pas engagé dans une relation maritale, parce qu'il pense que vraiment on touche au dernier temps. C'est son conseil à ce moment-là. Mais cela signifie aussi que Paul révèle aussi l'importance d'être célibataire, notamment par la disponibilité. Il le rappelle un peu plus tard dans 1 Corinthiens 7, un célibataire a moins de contraintes familiales et est vraiment une bénédiction pour le service du Seigneur aussi. Et ça, on peut le rappeler. Et pourquoi Paul rappelle ça ? Il veut souligner qu'il n'est pas question de s'imaginer, comme le font certains Corinthiens ici, que l'état marital, être marié ou être célibataire, eh ben, que l'un prévaut sur l'autre ou que l'autre prévaut sur le précédent. C'est parce que ce n'est jamais le statut social qui définit ou qui détermine la spiritualité d'un chrétien. Et Paul enseigne ici que les deux catégories sont des états que Dieu permet et même qui sont le fruit d'un cadeau de Dieu. Et on peut lire le verset 7, « Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu » un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Paul, dans tout son discours, vous avez remarqué, on a quelques petites notes qui montrent qu'il ne néglige pas les frustrations qui peuvent être associées à la vie sexuelle des uns et des autres, que ce soit pour le célibataire, mais aussi dans une vie maritale. Mais Paul souligne ici quand même un gros sujet d'encouragement pour tous. Nous pouvons nous tourner vers Dieu et être reconnaissants parce que c'est lui qui nous a créés. Et il ne nous a pas créés asexués, mais bien sexués, tels que nous sommes. C'est lui le créateur de ces choses. Et nous pouvons également nous tourner vers lui, comme le rappelle ce verset. Dieu donne en particulier. Nous pouvons lui faire confiance. C'est une occasion pour nous, lorsque nous réfléchissons à notre sexualité, de se retourner vers Dieu, de se tourner vers Dieu. C'est un encouragement aussi à renouveler dans notre relation à Dieu, à renouveler notre confiance en lui. Il est bon, Dieu est bon. Il a pourvu à toute chose, il a pourvu à notre façon d'être, mais il pourvoira aussi à la façon de vivre tout ce que nous sommes. Dieu a donné à chacun de ses enfants le caractère, l'aptitude, la capacité pour qu'ils vivent et s'épanouissent dans sa vocation. Et même dans le domaine de la sexualité, qu'il s'agisse d'ailleurs du célibat ou du mariage. Le Seigneur n'est pas un maître cruel. S'il demande par exemple à une personne de rester célibataire pour un temps ou pour la vie, il lui en donnera aussi les forces de le faire. La sexualité est un don de Dieu à l'humanité. Et c'est un rappel que je voulais faire avec vous ce matin. Et ce rappel, il est double. Le don de Dieu, pour moi, il est double. Dieu nous a créés sexués, mais Dieu nous donne aussi les dons nécessaires pour vivre notre vie sexuelle ici sur Terre, dans nos particularités et dans nos situations de vie. Mais ce rappel est quand même aussi lourd de sens dans l'époque où nous vivons. La pensée de ce monde ou l'influence de ce monde est clairement à l'antipode ou à l'opposé de cette réalité. Va dire à quelqu'un que sa sexualité est un don de Dieu. Et ce que... C'est chaud, ouais, comment on dit, ouais. Mais la Bible accentue dessus. Parce que la Bible nous demande de comprendre que Dieu est celui qui est le concepteur, le créateur de notre sexualité. Et cela va nous aider pour gérer notre sexualité. Il nous fait ce cadeau. Et la Bible, d'ailleurs, met quelque chose d'extraordinaire en avant aussi dans les rapports sexuels. C'est quelque chose de très bon. Vous pouvez lire le Cantique des Cantiques. Nous sommes en confinement et bientôt nous devons rentrer à 21h. Vous, couple marié, lisez Cantique des Cantiques. Prenez ce rendez-vous tous les jours à 21h. Couchez les enfants. Bon. Mais en tant que croyants, nous sommes tenus de reconnaître que Dieu est celui qui a voulu la sexualité et l'a créée. Et Dieu aussi, c'est lourd de sens parce que Dieu a créé des êtres masculins et des êtres féminins. Il les a créés avec un corps qui correspond à leur sexualité. Dieu est à l'origine des sexes, selon sa conception à lui. Dieu est celui qui a créé l'homme avec ses caractéristiques d'être sexué. Et c'est bien Dieu que je suis en train d'affirmer ici avec vous ce matin, que c'est lui qui en a eu les plans et qui les a établis. En tant que concepteur, inventeur, créateur de la sexualité, Dieu est aussi celui qui en détient toute la notice d'utilisation. Et pour le meilleur. Donc on peut se tourner vers lui pour recevoir de lui les capacités et les dons pour vivre la sexualité d'une manière sereine et d'une manière libre. J'ose faire cette remarque aussi avec vous ce matin, osons voir que le monde actuel nous écarte vraiment de cette pensée. Ce monde juge peut-être la pensée que je suis en train d'évoquer avec vous trop has-been ou finalement comme un obstacle à la liberté sexuelle. Mais réalisons combien cette société aurait besoin de se réadapter, au moins en partie, vis-à-vis de cette vérité que la Bible annonce, parce que beaucoup de personnes dans ce monde se perdent, et des chrétiens aussi, malheureusement, à cause de cette vision du monde qui donne une vision tronquée de la sexualité, tronquée de l'amour, une vision tronquée du couple, de l'engagement marital, et par conséquent subissent des troubles des fois lourds d'âme, psychologique et même corporel. Et j'aimerais que nous puissions être attentifs à cela, parce que toutes ces conceptions que nous pouvons trouver dans ce monde, ou les images qui se rapportent au rapport au corps, au rapport au sexe, au rapport au mariage nous trompent. Et réalisons que ces conceptions-là, que nous entendons très souvent, ce sont des formes de prison que Satan essaye de mettre en place dans nos vies pour nous tenir captifs et nous éloigner clairement de la volonté bonne et parfaite de Dieu dans ce domaine. La Bible révèle clairement cela, révèle clairement que l'influenceur de ce monde, le prince de ce monde, Satan, veut faire quoi, même dans le domaine de la sexualité, et peut-être même surtout dans ce domaine-là, il attise fortement les passions, les convoitises de tout genre dans ce domaine pour nous entraîner dans ces prisons, dans des mauvaises conceptions de la sexualité. Et son but à lui, c'est quoi? On le connaît tous. Nous réduire à la condition d'esclavage. Nous réduire à une vie d'esclavage et nous conduire jusque dans la ruine dans ce domaine. Dieu ne souhaite pas une ruine dans ma vie sexuelle, mais bien au contraire, le meilleur. Deuxième chose que j'aimerais évoquer courtement avec vous aussi ce matin, que Dieu a prévu un cadre. Le mariage est le cadre donné par Dieu pour vivre la sexualité. Lisons les versets 9 à 11. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, Paul s'adresse ici certainement à des divorcés et aussi à des veuves qui ont perdu leur conjoint. Je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi, c'est-à-dire célibataires, mais s'ils ne peuvent pas se marier, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Versets 10 et 11. À ceux qui sont mariés, Paul s'adresse ici certainement à des personnes mariées de deux chrétiens mariés, où il appuie ceci en disant « J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. » Verset très très marqué, puisque ça fait des débats que je ne vais pas débattre maintenant. Mais certainement la prochaine fois, sur la prochaine prédication, j'aurai l'occasion de parler de toutes ces thématiques. Le remariage, le divorce, qu'est-ce que la Bible préconise en termes de mariage, de remariage et de divorce? Paul jette de l'huile sur du feu, là. Et puis après, dans la suite de notre passage, va s'adresser à des personnes qui sont mariées avec un non-chrétien, des personnes qui sont vierges et qui sont en vue de se marier, ou d'autres qui sont vierges et qui ne vont pas se marier. Et il va aborder tous ces cas de figure pour montrer ce que la Bible préconise en matière de mariage. Mais ce que je voulais souligner avec vous ce matin ici par ces versets, c'est qu'on voit clairement que Paul ne donne pas beaucoup d'options. Il est en train de donner l'option, soit tu vis dans cette condition de célibataire avec ce que ça coûte, soit oriente-toi aussi vers cette réalité du mariage. Et je voulais souligner quelques remarques concernant la valeur du mariage, parce que Paul accentue drôlement verset 10 que c'est pas lui qui le dit, mais le Seigneur. Ici, je suis pas en train de dire que tous les chrétiens, c'est interdit le divorce, dans le sens que s'il y a un divorce, on va pas jeter la pierre à un chrétien, ou ce serait juste la cause de l'adultère, puisque Paul pense au message de Jésus à ce moment-là, ou que ce serait simplement la cause d'adultère qui pourrait autoriser le divorce. Parce qu'on pourrait penser à d'autres situations, la maltraitance, des choses horribles qui se passent dans les couples. Qu'est-ce que la Bible dit sur ces sujets? Mais là, juste pour faire court, Paul met vraiment une valeur importante sur le mariage en disant oui, Dieu a donné une valeur fondamentale, créationnelle au mariage et aussi une valeur noble et forte. Et je vous rappelle quelques principes ici. Le premier principe que j'aimerais rappeler, c'est que le mariage, c'est pas juste un truc ringard, inutile et où il faut laisser dans le placard, mais dans l'intention de Dieu, sa première intention, c'est de nous donner le meilleur cadre pour notre bonheur dans cette vie sexuelle. Le mariage est un don de Dieu qui fait partie du bonheur qu'il veut donner à l'homme et à la femme. Le mariage est aussi une alliance d'amour réciproque d'un homme et d'une femme. je précise, monogame et permanente. C'est l'intention de Dieu, c'est pour ça que Paul accentue ici. Dieu, quand il voit le mariage, c'est pour que ce mariage perdure. Le mariage est une institution divine dans le cadre de la création, troisième point, et c'est important puisque Dieu l'a voulu pour tous les hommes, pas simplement pour les chrétiens. Le cadre du mariage est voulu pour tous les hommes parce qu'il revêt l'intention de Dieu pour tous, l'intention de vivre le bonheur dans ce domaine. Et la Bible aussi montre que le mariage est attesté par un acte public et social, parce que Dieu veut qu'un couple soit reconnaissable dans la société. Depuis l'entrée du péché dans le monde, il faut le noter, et ben justement, le mariage, la vie du couple, la famille est bien mis à rude épreuve. Et Satan, de voir un couple heureux, une famille saine, ça ne lui plaît pas. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent autrement. L'adultère est condamné fortement dans la Bible. Le divorce n'est pas initialement la volonté de Dieu. Ce n'est pas le plan A de Dieu pour un couple, mais plutôt la pérennité, la durée. D'ailleurs, en Malachie 2, 16, on peut lire que l'Éternel dit « Je déteste le divorce ». C'est l'Éternel lui-même qui le dit. Alors, ce n'est pas une occasion pour jeter la pierre ou divorcer, je le rappelle. Mais c'est l'intention première de Dieu qui est révélée dans ce cœur-là. Dieu souhaite que le mariage soit pérenne. Cependant, à cause de la dureté du cœur, la Bible révèle aussi que Dieu a permis le divorce. À cause de la dureté des cœurs et de nos cœurs, il n'y en a pas un meilleur que l'autre, je crois. À cause de la dureté des cœurs, des fois, on arrive jusqu'au divorce. Et bien entendu, Paul n'oublie pas que avant le divorce, nous pourrions bénéficier d'aide, surtout lorsqu'on est chrétien, ou d'aide surtout lorsqu'on est en église, qui peut nous permettre de se réconcilier. Et puis, le divorce, pour moi et pour notre famille d'église aussi, signifie la rupture du lien conjugal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois qu'il y a divorce, on peut penser au remariage. Alors ça, je l'expliquerai plus tard, sur la prochaine fois. Et le remariage, finalement, si on continue dans cette pensée, est admis. Mais Paul donne quand même toute une série de recommandations et de conditions aussi derrière ça. Il faut lire tout le chapitre, notamment 1 Corinthiens 7, 17, où il est question, où Paul dira, il faut faire selon l'appel particulier que Dieu réserve à chacun. Donc ça appelle au discernement. C'est pas juste je divorce parce que j'ai envie de passer à autre chose, mais il y a tout un cheminement. Bref, voilà quelques recommandations que je vous fais part aujourd'hui pour aller plus loin la prochaine fois avec vous. Mais je voulais terminer par le verset 9 qui m'a interpellé, et je vais terminer là-dessus. Ce verset 9 dit « Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. » Brûler de désir, c'est être enflammé, sous-entendu, être enflammé de passion. Et je vous lis cette citation qui m'a interpellé. C'est MacArthur qui fait ce commentaire. Il dit « On ne peut pas vivre une vie heureuse et encore moins servir le Seigneur si on est constamment tourmenté par le désir sexuel, même s'il ne nous conduit jamais à commettre d'actes immoraux. » Et je trouvais cette parole hyper profonde. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi ou si c'est parce que je suis un homme, mais j'ai bien compris dans un certain sens ce que ça pouvait signifier dans ma vie. J'ai déjà expérimenté ce genre, et peut-être vous aussi, ce genre de désir ou de pulsion intérieure qui finalement prend tellement de poids que tu es accaparé. Et finalement, pour aller soit dans le service pour Dieu ou soit dans un travail ou une occupation d'une manière totalement sereine et libérée, tu es incapable. Ou en tout cas, ça demande vraiment une lutte forte. Alors ce matin, ça me permet de révéler encore une fois cette question. Est-ce que nous n'aspirons pas à une liberté sexuelle? Qu'est-ce que ça veut dire, une liberté sexuelle? Où finalement, nos passions, nos sentiments ou même nos pensées mêlées à nos désirs ne nous imposent pas une conduite sexuelle ou un choix dans ce domaine. Finalement, la liberté sexuelle dont je vous parle depuis le début n'a rien à voir avec le fait que je m'abstienne d'un rapport ou que je puisse avoir la possibilité de le faire dans le cadre du mariage, mais a tout à voir avec la liberté à laquelle j'ai accès en Jésus-Christ dans ce domaine. La parole rappelle que si Christ m'a franchi, je suis réellement libre. Et je pense qu'on peut l'appliquer aussi à ce domaine, avec cette pensée derrière moi. Cette liberté, d'ailleurs, Paul en a déjà parlé au chapitre 6, le chapitre qui précède notre texte. En rappelant notamment, tout m'est permis, c'est ce que disaient les Corinthiens. Vous vous rappelez, les Corinthiens disaient, waouh, j'ai la grâce de Dieu, je suis super et tout, je peux faire tout ce que je veux. Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. En fait, la liberté n'est pas quelque chose sans loi ni frein, une démesure totale, mais a tout à voir avec ce que la grâce est en train de manifester dans la vie d'une personne qui, cette grâce, lorsqu'on l'a reçue de Christ, donne ce que la Bible appelle une vie nouvelle. Une vie nouvelle qui n'est plus dominée, puisque Paul dira au chapitre 6, il n'est plus question de faire tout ce qu'on veut, tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien du tout. Et ça, c'est la liberté que nous avons en Christ, cette nouvelle vie que Dieu nous accorde par son esprit. J'ai cette nouvelle vie. Et tout, y compris les sentiments, les réactions dans le domaine de la sexualité, ne m'imposent pas. Je ne suis plus esclave de ça, mais je suis moi-même, par le Saint-Esprit, capable de les gérer d'une manière juste, d'une manière pure, d'une manière agréable et parfaite, selon la volonté de Dieu, et pour ma plus grande joie. Parce que la plus grande satisfaction dans la liberté sexuelle n'est pas une liberté sans mesure, mais d'avoir finalement à l'intérieur de nous la satisfaction d'avoir vécu cette vie en conformité avec ce qui est véritablement pur et parfait. Et tout l'enseignement de Dieu concernant ce sujet est pur, parfait et bon pour chacun d'entre nous dans ce domaine-là. Question pour terminer, je ne sais pas comment tu te positionnes toi aujourd'hui dans ta liberté sexuelle. Est-ce que tu es véritablement libre ? Penses-tu à un obstacle dans ce domaine, dans ta vie, qui fait barrière potentiellement à cette liberté que Dieu veut t'accorder dans ce domaine ? As-tu un péché à confesser à Dieu ? As-tu un péché à confesser à ton conjoint ? Peut-être aussi tu ne vis pas tellement bien ton célibat. Alors n'hésite pas à t'entourer d'un frère ou d'une sœur afin de prier régulièrement pour cela. Peut-être tu es marié, mais que ta vie sexuelle a quelques dommages et cabossages. Prends du temps aussi pour prier, idéalement aussi avec ton conjoint, mais surtout peut-être avec une personne qui peut t'accompagner dans ce domaine, et même des personnes professionnelles. Peut-être que Dieu te rappelle aussi à des devoirs conjugaux, comme on a vu ce matin. Prends le temps de les reconsidérer pour toi, pour ton couple, et essaye de demander à Dieu les manières, les bonnes manières de redresser le tir. Peut-être que ta situation actuelle concernant ta vie sentimentale est peut-être bancale par rapport à la volonté de Dieu, ou pas en adéquation avec ce que Dieu aimerait te donner. Prends du temps également pour reconsidérer la volonté de Dieu dans ce domaine pour toi, et confie-toi en lui, un frère ou une sœur peut-être, pour remettre de l'ordre dans ta situation et te conformer à sa volonté. Je voulais nous encourager ce matin à cette invitation, il me semble, de Dieu pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu nous invite tous à reconnaître que la sexualité est un don qu'il nous accorde. C'est un don de Dieu. Et ce don, Dieu m'invite à le vivre selon la liberté et selon l'appartenance que j'ai en Christ. Et je vous cite quelques versets pour terminer. Dans 1 Corinthiens, dans tout ce qui précède nos passages, Paul a déjà évoqué toute cette appartenance que nous avons en Christ et cette liberté que nous avons en Christ. Je vous cite quelques extraits de versets. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? C'est une question. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dieu donne une préciosité à nos corps. Nous sommes un temple saint. Un peu plus loin, il est dit, tout est à vous et vous êtes à Christ, Christ est à Dieu. Ça veut dire que nous appartenons, nous sommes unis à Dieu de la même manière, ou en tout cas dans la conception de Dieu, de la même manière que Christ est uni à Dieu le Père, en tout cas dans la Trinité, cette union. Et ça comprend aussi nos corps. Et un dernier verset, 1 Corinthiens 6, 19. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vaste programme, que Dieu nous aide à vivre notre vie sexuelle totalement libre, selon ce qui nous invite à croire et à pratiquer cette liberté que nous avons en Christ, selon le fait que nos corps et tout ce que nous sommes lui appartient, y compris notre relation avec notre mari, notre conjoint, y compris tout le domaine qui comprend ma sexualité. Que Dieu vous bénisse. Et je prie.